Vous écoutez RTL.
On passe au second thème de cette émission, le vin. Bonjour Fabrizio Buccella.
Bonjour.
Soyez bienvenue.
Bienvenue, vous êtes sommelier, directeur d'une école d'œnologie. Le vin qui est en pleine actualité, malheureusement, j'ai envie de dire, à cause des orages et de la grêle de ces derniers jours. Il y a eu le Bordelais, la région de Cognac et puis la Champagne, là, il y a quelques heures. Est-ce que, d'abord, tiens, peut-être une question de consommateur. Est-ce que ça peut avoir des conséquences en termes de prix ?
Alors, ça peut clairement avoir une conséquence en termes de prix, mais je pense que la première conséquence, c'est bien sûr pour les exploitations vitivinicoles qui sont affectées par ces phénomènes climatiques un peu impressionnants et qui nous rappellent aussi qu'à la fin, le vin, c'est un produit naturel et qu'on a beau être au 21e siècle, pouvoir communiquer en 148 avec Donald Trump, entre guillemets, et puis être quelque part soumis aussi aux lois de la nature.
Il n'y a rien à faire contre un orage de grêle quand on est viticulteur, ça ne peut pas s'anticiper, il n'y a pas des moyens de le limiter.
Non, clairement, la question est pertinente. En fait, il y a tout à fait moyen de limiter les orages de grêle. Il y a moyen d'envoyer des canons ou des ballons, excusez-moi, des ballons sondes dans l'atmosphère qui permettent de disperser le nuage de grêle. Mais ce sont bien sûr des procédures coûteuses qui nécessitent des mises en œuvre collectives au niveau des associations de vignerons, de bassins qui sont affectés collectivement.
Bon, on a plein de questions à vous poser sur le vin. Par exemple, le rouge est-il plus calorique que le blanc ? Peut-on sauver une bouteille bouchonnée ? Boit-on plus de rosé que de vin blanc en France? Ça tombe bien, Fabrizio Buccella, vous avez les réponses.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le sport, c'est un bon moyen d'avoir un dos solide.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Tous ceux qui en souffrent croient qu'ils doivent s'abstenir de bouger, alors que c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Non seulement vous n'aurez pas mal sur le cou, mais à terme, vous serez musclé.
Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Oh, le petit vin de l'ombre.
RTL.
Qu'on boit sous les tonnelles.
C'était si jeune marin qui revenait de Saint-Malo. Ils entrèrent dans une auberge pour y voir du vin nouveau.
Wow. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà, on est allé dans les chants traditionnels pour lancer la séquence. Et en même temps, c'est très révélateur, je trouve, parce que le vin, ça fait partie de la tradition et de l'histoire française depuis si longtemps. On est avec le sommelier Fabrizio Buccella pour chasser quelques idées reçues sur le vin. On a des dizaines de questions. En fait, ce qui nous a donné envie de vous inviter, c'est ce gros titre qu'on a vu dans certains journaux. Pénurie de rosé pour cet été. Forcément, on a tous pris peur, même s'il faut consommer tout ça avec modération. Est-ce que vous y croyez d'abord à cette pénurie de vin rosé?
Non, je n'y crois absolument pas. Je pense que cet été, on pourra tous et toutes boire du vin rosé tranquillement au soleil. Mais par contre, ce que je pense, c'est que ça fait depuis maintenant plus de 20 ans qu'en France, on consomme plus de rosé que de vin blanc. Donc ça signifie que le vin rosé est devenu un produit vraiment important pour les Français. D'ailleurs, une bouteille sur trois vendue par an en France est une bouteille de vin rosé. Et c'est, entre guillemets, aussi dans ce cadre-là qu'il y a une certaine forme de valorisation du produit, notamment les fameux rosés de Provence, et je pense plutôt que ça participait d'une campagne, je dirais, d'explication, disons-le comme ça, bienvenue, pour nous amener à accepter, disons, une petite augmentation au niveau des prix de certaines appellations de rosés.
Ah, oui, vous êtes gentil, il y avait un petit coup de marketing derrière tout ça, c'est ça, si j'ai bien compris.
Fabrizio Buccella, pardon, j'écorche votre nom, on fait tous plus ou moins attention à notre ligne avant l'été, on se pose tous la question, et on se dit, alors, qu'est-ce qu'il y a de moins calorique, le vin rouge, le vin blanc ou le rosé? Est-ce que vous avez la réponse?
Alors, les calories en termes de bilan calorique. Donc les calories qui sont contenues dans le vin sont uniquement dépendantes du taux d'alcool, pour autant bien sûr que le vin soit sec, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sucre résiduel. Alors dans certains vins rosés, justement, il y a des sucres résiduels et donc il faut en plus ajouter au bilan calorique non seulement les calories de l'alcool, mais les calories du sucre. Mais donc si vous voulez vraiment être tout à fait sûr, il vaut mieux peut-être aller plutôt sur un vin rouge, qui sont les vins qui, à la moyenne, contiennent le moins de sucre résiduel possible.
J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas boire de vin rouge le soir avant de dormir parce que ça se transforme en graisse la nuit, que c'était absolument affreux pour le régime. Vrai ou faux?
Je pense que ça, ce sont vraiment des histoires des contes urbains. Par contre, c'est sûr que le vin, même un verre de vin qui possède 13% d'alcool, eh bien le verre, c'est-à-dire un sixième de bouteille, contiendra à peu près 13 grammes d'éthanol. Et 13 grammes d'éthanol, vous êtes à peu près à 80-90 kilocalories à la fin. Donc il faut quand même
quelques calories. Alors, donc, juste pour être bien sûr, le rouge est moins calorique que le blanc? Moi, j'étais persuadé de l'inverse.
Non, je me suis peut-être mal exprimé. Mon idée, c'était simplement de dire que s'il n'y avait pas de sucre résiduel dans le vin, on évitait ces calories-là.
Mais comment on sait ça, qu'il n'y a pas de sucre résiduel, nous les consommateurs, quand on arrive au supermarché ou chez le caviste?
Oui, ça c'est une très bonne question. Alors il faut le demander effectivement, soit au responsable du rayon vin du supermarché, soit auprès du caviste, sachant qu'a priori les rouges français n'ont que très rarement les sucres résiduels. D'accord. Les blancs parfois, notamment les blancs alsaciens, et parfois bien sûr les vins rosés. Vous savez qu'il y a ce côté un peu doux, doucereux de certains rosés. Alors là, ils contiennent clairement parfois jusqu'à 7, 8, 9 ou 10 grammes de sucre résiduel par litre.
C'est pas forcément écrit sur l'étiquette.
C'est pas forcément écrit sur l'étiquette. Donc ça, je pense que ça pourrait être une information utile que le consommateur souhaiterait avoir.
Alors une fois qu'on a rendu chèvre le caviste, le chef de rayon de supermarché, avec nos questions de curieux, et je pense que je vais être reconnue dans certains magasins. Quand on achète sa bouteille et qu'on la débouche, parfois on est vraiment trop déçu. Elle est, vous arrive souvent, elle est bouchonnée. Est-ce qu'on peut sauver une bouteille bouchonnée?
Si c'est vraiment le goût de bouchon, au sens de la fameuse molécule TCA, alors il n'y a pas de moyen de sauver la bouteille. Vous pouvez la carafer, vous pouvez la laisser une nuit, deux jours, faire des incantations en druidique ou en celte ancien, ça ne va pas fonctionner.
Mais pourquoi il est bouchonné ce vin qu'on achète?
Ah, il est bouchonné parce qu'en fait, il y a une molécule dans le bouchon de liège naturel qui se transfère au produit fini, donc au vin. Alors lorsque la quantité ou le pourcentage, la concentration de cette molécule dépasse un certain seuil, le seuil de perception pour la moyenne des gens, on sent le goût de bouchon.
C'est pour ça qu'on voit un peu plus de bouchons en plastique qui remplacent les bouchons de liège.
Alors, c'est sûr que les bouchons en plastique, notamment...
Il n'y a pas de risque.
Là, les bouchons en plastique ne présentent absolument aucun risque. Maintenant, pour l'esprit du consommateur, on a quand même toujours l'impression que pour un grand cru ou des vins prestigieux, on souhaite avoir un bouchon en liège naturel.
Mais j'entends sous-entendu que ça ne change pas grand-chose à la maturation du vin, le bouchon en plastique?
Là, je vais vous donner plutôt une intime conviction que réellement les résultats d'études, à mon sens, vu le pourcentage de bouteilles bouchonnées, on serait sans doute mieux amené ou mieux inspiré à accepter des bouchons synthétiques. On éviterait en tout cas toutes les bouteilles bouchonnées. Autre chose, c'est toute la mythologie qui circule au niveau du bouchon de liège.
L'anti-guide du vin, c'est le titre du livre que vous publiez chez Duno. On y trouve la réponse à cette question essentielle. Mais pourquoi les bouteilles de vin rouge sont-elles vertes? Réponse à venir sur RTL.
Boire un petit coup, c'est agréable.
RTL.
Rouge, Chablis, Bourgogne.
Le vin me saoule.
La curiosité est un vilain défaut.
Et le bon Dieu nous a donné, dans sa largesse, un trou sous le nez. Il voulut qu'on y verse, de temps en temps, un verre de vin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a quelques jours un article des Échos alertait sur une possible pénurie de rosé cet été en France. Depuis, on a entendu tout et son contraire. Heureusement, notre invité, le sommelier Fabrizio Buccella, remet les choses en place. Vous nous avez rassuré, il y aura du rosé cet été et il sera bon, mais il sera toujours à consommer avec modération. D'ailleurs, pourquoi le vin rosé est-il rosé?
Le vin rosé est rosé parce qu'il y a une courte période de macération, c'est-à-dire de contact entre la peau et le jus qui transfère la couleur. Le vin rosé est produit à partir de raisins rouges, pour la plupart.
C'est-à-dire que si on le laisse plus longtemps, il devient vin rouge.
Oui, clairement. C'est vraiment la bonne interprétation. En fait, le rosé, c'est un rouge pas terminé, si vous voulez.
Alors, ma maman, elle refuse toujours de boire du vin blanc. Elle me dit, non, tu sais très bien que ça me donne mal à la tête. Je suis même pas sûre que ce soit vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Est-ce que c'est vrai que le vin blanc donne mal à la tête?
Alors, moi, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques qui recensent le fait qu'il y a une différence statistique significative entre les consommateurs de vin blanc et les consommateurs de vin rouge.
Il y aurait plus de sulfite, peut-être, dans les vins blancs que les vins rouges?
Ça, par contre, c'est tout à fait certain, parce qu'en fait, le vin blanc est moins protégé contre l'oxydation, et donc c'est sûr que si on est allergique au sulfite, c'est notamment des allergies respiratoires ou cutanées, le vin blanc peut être un peu plus agressif.
Mais les sulfites, c'est ce qui pourrait donner mal à la crête? À la tête,
c'est pas extrêmement bien documenté, le fait que les sulfites donnent des céphalées. Ils peuvent donner des céphalées pour les personnes qui sont allergiques, mais ce n'est pas extrêmement bien documenté. Il y a aussi une autre caractéristique du vin blanc, c'est que le vin blanc est plus acide. Il a un pH plus bas et donc on peut aussi avoir une plus grande agressivité au niveau de l'estomac, c'est sûr.
Et alors puisqu'on est sur le vin blanc, il faut du raisin blanc pour faire du vin blanc. On pose vraiment les questions de base dans cette émission.
Non, mais c'est intéressant parce que ce sont des bonnes questions. C'est des questions que me posent quand même régulièrement les étudiants, mes étudiants. Alors, il faut des raisins blancs, mais pas nécessairement. Vous pouvez faire du vin blanc avec des raisins rouges, mais qui sont à jus blanc. 90 ou 99% des raisins utilisés pour la vinification rouges sont des raisins rouges à jus blanc.
Fabrizio Buccella, je rappelle que vous êtes sommelier et directeur de l'école d'œnologie Interwine and Dine. Est-ce que la science peut expliquer le goût du vin? Parce que quand on est petit, on trouve ça vraiment dégoûtant et on se dit mais jamais, jamais j'en boirai.
Heureusement, on grandit.
Puis soudainement, on commence à trouver ça pas mal et après, on adore ça.
Alors, est-ce que la science peut expliquer l'ensemble du goût du vin, c'est-à-dire l'ensemble des composés aromatiques qui composent le vin? Non, encore aujourd'hui, la recherche continue. Donc, c'est plutôt passionnant.
Parce
que ça signifie que c'est un univers en complète expansion en termes de connaissances et on n'a de loin pas encore fait le tour de la question. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut expliquer aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, on en expliquera encore d'autres.
Mais vous les expliquez notamment dans votre livre publié chez Duno. Et on a aussi plein de questions sur les bouteilles de vin, leur look. Et on commence donc par le cul. Pourquoi n'est-il pas plat?
Alors, certains pensent que le cul n'est pas plat pour que le sommelier puisse y mettre le doigt, sans jeu de mots.
On est bien.
D'accord. Ouais,
mais non.
Rire vos étudiants quand vous expliquez ça, non?
Oui, quand je l'explique de cette manière-là, effectivement, il y a un frémissement dans l'amphithéâtre. Ça marche.
Donc, c'est pas pour les sommeliers qu'on a inventé ça.
Non, c'est pas pour les sommeliers. C'est plutôt une contrainte historique due à la tradition des souffleurs de verre qui n'arrivaient pas, au moment où, à l'époque plutôt, où on soufflait les bouteilles à la main, à réaliser des bouteilles soufflées à la main avec un cul plat qui puisse être plus ou moins stable sur la table.
Aujourd'hui, toujours un tout petit peu bombé, donc ça tenait pas. Quoi,
non, il était bombé pour qu'il puisse tenir sur la table. On n'arrivait pas à bien souffler. C'est ça. On n'arrivait pas à bien souffler une bouteille avec un cul complètement plat. Alors on a conservé, si vous voulez, la tradition.
Et alors la couleur des bouteilles de vin rouge, pourquoi ces bouteilles sont vertes?
Alors les bouteilles sont vertes, ou encore mieux, parfois elles sont brunes, parce que ces verts colorés filtrent, ou en tout cas empêchent une partie des transmissions de rayons ultraviolets, qui sont bien sûr extrêmement nocifs pour l'évolution du vin.
Et ça compte pas pour le vin blanc et le rosé, ça, alors?
Mais les vins blancs ou rosés, qui sont parfois des vins de consommation plus rapide, eh bien on peut se permettre de faire des bouteilles de verre qui ne sont pas colorées, bouteilles qui bien sûr sont moins onéreuses également à l'achat pour le vigneron.
Bon, alors Fabrizio Buccella, on a vu apparaître depuis quelques années des vins bio, nature, biodynamique et même vegan à Lombon. On va essayer de faire le tri dans toutes ces appellations. A tout de suite sur RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon.
RTL.
Je bois du vin clair, ami tout tourne, 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 tourne.
La curiosité est un vilain défaut.
Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Georges Brassens qui chante le vin tout à l'heure, c'était Pierre Perret, Nicolas Perrac. Voilà, ça fait partie, je le disais tout à l'heure, de notre culture. Évidemment, ici en France, on est toujours avec le sommelier Fabrizio Buccella pour découvrir ce monde du vin. Et grâce à votre anti-guide du vin qui est publié aux éditions Duno, j'aime bien le sous-titre « Ce que les autres livres ne vous disent pas ».
Et on en a lu, c'est vrai.
Ça, c'est une promesse.
Il y a du neuf.
Alors, on a plein de questions de consommateurs sur ces nouvelles appellations vin, bio, nature, biodynamique, on s'y perd un peu. C'est quoi la différence? Le vin bio, par exemple, c'est quoi?
Alors, le vin biologique est bien sûr produit à partir de raisins biologiques, donc des raisins qui sont cultivés sans pesticides ni herbicides de synthèse, comme pour tous les fruits biologiques, qui après sont vinifiés de manière biologique, c'est-à-dire avec fondamentalement une utilisation moindre de sulfite. Ça, c'est, je dirais, la différence fondamentale entre vin bio et vin pas bio.
Alors, biodynamique, c'est quoi encore?
C'est un échelon relativement intéressant. Alors logiquement, un vin biodynamique, c'est pas toujours le cas, mais logiquement, un vin biodynamique est déjà un vin bio. Et c'est un vin bio qui s'empêche d'utiliser une série d'autres additifs, qui utilise des doses de sulfite un peu moindres et qui considère l'exploitation vitivinicole comme un écosystème global qui va suivre éventuellement le calendrier lunaire, voire le calendrier des jours feuilles et des jours fruits, qui va avoir le vigneron va avoir un respect extrêmement pointilleux de sa vigne, de son terroir, de l'ensemble de l'écosystème de son exploitation vitivinicole.
Alors j'ai vu, donc il y a le vin bio, le vin en biodynamie et il y a aussi du vin vegan. Je ne savais pas qu'il y avait de la viande dans le vin parfois.
Alors il se peut que certains vins soient collés. C'est, l'opération de collage est une opération qui vient après la filtration avec des cols d'origine, donc qui sont en fait des protéines d'origine animale.
Et
donc,
c'est de l'œuf. C'est ça,
par
c'est
exemple, par exemple, ça peut être de l'œuf, par exemple. Bien sûr, les cols qui sont d'origine de type de sang de bovin ont été interdites depuis les scandales plus ou moins récents en France. Mais donc, si on utilise ce type de col, eh bien, d'un point de vue strict, le vin ne pourrait pas être qualifié de produit vegan.
Franchement, comment on peut avoir toutes ces informations? Parce qu'on peut aller parfois chez un caviste quand on a du temps, mais le plus souvent, on va au supermarché. On les a pas, ces infos sur les étiquettes des bouteilles? On est paumé.
Alors, bon, là, la question que vous posez est vraiment extrêmement pertinente. Alors d'abord, ça, en fait, elle participe et elle explique fondamentalement l'asymétrie informationnelle qui est pour moi un des éléments essentiels du milieu du vin, c'est-à-dire le fait qu'il y a une asymétrie d'information entre le consommateur et le producteur. Et bon, et modestement, ça nous permet de temps en temps d'écrire un ouvrage, de pouvoir diffuser une certaine information. Pour donner en partie les informations, en tout cas celles qui sont disponibles.
Il faudrait donner un peu plus d'infos sur les étiquettes, si je vous comprends bien.
Clairement.
On a appris des mots aussi dans votre livre. Il y en a un, alors je ne sais plus ce que c'est, passerillage. C'est quoi le passerillage?
Alors, le passerillage, c'est l'opération qui consiste pour certains vins blancs qu'on veut vinifier avec, du sucre résiduel, donc dont on veut faire des vins moins moelleux ou liquoreux, c'est l'opération donc qui consiste à faire sécher les raisins, par exemple, sur des clés de bois ou éventuellement sur de la paille ou sur un grillage, avant de les vinifier. On va extraire un peu d'eau par l'opération de séchage.
Ça fait monter le taux de sucre?
Exactement. Donc le sucre ne va pas augmenter, mais simplement il y aura moins d'eau. Donc le taux de sucre, la proportion sucre-eau va augmenter et donc on va avoir un vin liquoreux ou moelleux à la fin.
Autre expression qui m'a beaucoup plu, c'est la pourriture noble. C'est très joli, ça pourrait être dans un poème, ça veut dire quoi en vin?
Ça c'est magnifique, je suis bien d'accord. Alors la pourriture noble participe encore d'un des mystères du vin. C'est en fait un champignon qui attaque les vins, notamment de Sauternes et certains grands crus ou certains crus alsaciens, et qui va transférer à ses futurs vins liquoreux des arômes de type abricot, abricot sec, voire éventuellement des arômes safranés. Et c'est une pourriture qui s'installe difficilement, pas chaque millésime. C'est une opération extrêmement magique que moi-même, je n'ai pas encore tout à fait décodée, mais je ne suis pas le seul à l'avoir tout à fait décodée ni comprise.
Merci beaucoup, votre anti-guide du vin Fabrizio Buccella est donc publié aux éditions Dunod. Merci.
Vous écoutez RTL.